Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Priscille Roquebert.
Bonjour.
Alors on est dans le temps de Noël. On pense à toutes les familles qui vont peut-être avoir la joie de se retrouver, de se rassembler. Et donc en vous recevant spécialement dans ce temps de Noël, on peut peut-être penser, et vous pouvez peut-être avoir aussi un petit mot pour toutes ces familles qui ne vont pas rentrer dans cette joie de Noël, mais entrer dans ce temps de Noël dans la douleur. Parce que la famille est désunie, parce que le couple est déchiré, parce qu'il y a peut-être dans ces familles des drames. Et ces drames, vous les avez vécus. J'ai lu votre livre, du début à la fin. Vous avez traversé des moments d'enfer. Alors, peut-être des mots d'encouragement, d'espérance, de consolation.
Alors, je sais que quand on est au cœur de la tempête, les mots que je vais vous dire vont, je sais pas comment ils vont résonner en vous. J'ai pas de paroles magiques, j'ai pas de baguettes magiques. Je sais que quand on est vraiment au fond du trou et qu'on ne voit pas de sortie de secours, c'est très compliqué d'avoir l'espérance. Mais si vous êtes chrétien, j'aurais envie de vous dire que Jésus, il a donné sa vie aussi pour vous et que si vous aviez été seul sur terre, Jésus aurait donné sa vie de la même manière. Si Monique, qui écoute aujourd'hui, si Jean, Marie, est dans une situation, toi, tout seul, sur terre, Dieu aurait fait exactement, aurait donné son Fils pour ton salut. Dieu t'aime de manière, mais d'une tendresse et d'une manière qui, je ne sais même pas s'il y a un mot pour décrire l'amour que Dieu a pour vous chacun en tant qu'être unique. Et je vous promets que l'espérance ne déçoit pas et que même si on n'a pas toutes les réponses maintenant et qu'on a l'impression que le cauchemar ne s'arrêtera pas, j'aurais envie de vous dire, tournez les yeux, regardez vers lui. Dieu, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai compris que Dieu avait souffert avec moi. Que Jésus avait souffert avec moi et que quand il se faisait torturer au pied de la croix, ce qu'il était en train de porter là, c'était ma souffrance en fait. Et que du coup, qui de mieux que lui pouvait comprendre ce que je traverse et du coup, que j'avais jamais été seule. Donc vous n'êtes pas seule. Dieu sait exactement ce que vous traversez.
Et ça, c'est votre expérience. Ouais. Vous ne trichez pas, vous êtes dans la vérité, Priscille.
Oui.
Et ça, c'est aussi un point important pour vous. Être la plus juste dans les paroles. Cette histoire est vraie. C'est la vôtre. Et quand vous parlez d'espérance, après avoir connu, au fond, des moments de désespoir.
Oui, complètement.
Est-ce que vous-même, dans ces moments aussi sombres, de cauchemars, d'enfer, vous décrivez très bien dans votre ouvrage vos 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, c'est long, quand 15 ans, 16, 17, 18 ans, et puis c'est un an de plus, et l'enfer est toujours là, le cauchemar est toujours présent à la maison. Quand vous parlez d'espérance, vous savez de quoi vous parlez.
Ouais. Je sais que parfois c'est difficile d'en avoir.
Oui, aujourd'hui, quand vous mettez les mots d'espérance, vous savez de quoi vous parlez.
Mais je sais de quoi je parle parce que j'en suis sortie.
Vous en êtes sortie.
Mais je comprends pour ceux qui sont en plein dedans. La désespérance, le fait de se dire mais avec moi ça marchera pas, je vais pas m'en sortir, mais je suis l'exemple même que c'est possible.
Vous avez pensé parfois des moments d'en finir avec la vie?
Alors non, parce que je pense que je suis dotée d'un caractère, enfin j'aime la vie, voilà, ma nature est faite comme ça. Par contre, vouloir tuer mon père du coup, pour qu'il y en ait un de nous deux, enfin à un moment je me suis dit ce sera soit toi soit moi, je préfère que ce soit toi qui y passe. Après, oui, j'ai pensé à des appels au secours. J'ai pris des lames de rasoir et j'ai mis de l'alcool pour avoir des cicatrices. J'ai pensé me jeter par la fenêtre. En fait, juste des appels au secours, mais jamais je me suis dit vraiment, je veux mourir.
Alors, dans votre ouvrage, page 94, je vais très peu parler. Vous vous rappelez de ce moment où vous allez dans l'appartement de votre papa, parce que vos parents sont séparés une nouvelle fois. Il habite la même rue. Il suffit de traverser. Vous vous retrouvez chez lui parce que vous avez besoin, je crois, d'un papier. Vous êtes devant son clavier d'ordinateur et vous trouvez donc une lettre Vous rappelez le message de la lettre ?
Oui, en fait, je m'apprête à partir comme jeune fille au pair en Irlande parce que j'ai décidé de partir de ma famille pour vivre. Donc, j'ai 18 ans et on doit avoir un problème d'ordinateur chez ma mère. Donc, je vais chez mon père et là, je tombe sur une lettre qu'il écrit à ma mère. Il lui écrit, du coup, c'est bien que Priscille parte en Irlande parce qu'elle est un élément néfaste pour la famille. Et à ce moment-là, c'est le coup de grâce. C'est-à-dire que là, il a fini de m'achever. Là, ce jour-là, c'est l'horreur. Dans mon cœur, dans ma tête, c'est l'horreur. Je n'ai rien fait. Simplement, c'est vrai qu'on a une relation qui est très conflictuelle, qui est assez violente. Il n'y a pas que la violence physique qui peut faire des dégâts. Quand j'écris ça, je m'effondre et je lui dis, mais en fait, est-ce que tu te rends compte de tout ce que j'ai souffert par ta faute ? Quand j'étais petite, je faisais des dizaines de chapelets pour que tu t'en sortes. Je mettais de l'eau bénite dans tes verres de vin.
Des jolis petits mots.
Des petits mots sous l'oreiller parce que j'ai pleuré pour que tu t'en sortes. Mais en fait, est-ce que tu te rends compte qu'en fait, là, t'es en train de me terminer ? Je suis orpheline. En fait, tu ne m'as jamais aimée pour dire quelque chose comme ça. Mais c'est pas possible. Enfin, c'était au-delà de l'entendement, quoi. Donc, ça m'a aidé encore plus à partir en Irlande, finalement, cette lettre.
Et donc, c'était la survie, c'était libérateur pour vous ?
L'Irlande ?
Oui, l'Irlande.
Ben, l'Irlande, c'est très paradoxal parce que, alors déjà, j'ai 18 ans, je ne sais pas trop parler anglais, mais il faut que je parte, je le sais, parce que il faut que je choisisse de vivre à un moment donné. Et en fait, là-bas, ben, en fait, c'est compliqué parce que j'ai 18 ans et que pendant 18 ans, ou peut-être un peu moins en enlevant mes premières années, je n'ai pas appris à vivre. J'ai juste appris à survivre. Ça veut dire qu'il y a même plein d'aliments que je ne connais pas. Parce que ma maman n'a pas le temps de cuisiner. Donc elle fait des boîtes de conserve, voilà. Mais il y a plein de fruits, de légumes que je ne connais pas. Donc là-bas, je découvre mes goûts alimentaires. Ça veut dire, enfin, je découvre tout. Non, ça veut dire que c'est très vertigineux. Parce que tout d'un coup, j'ai le droit de vivre. Ok, super. Mais on fait comment ? J'ai le droit d'être qui je suis.
Okay. Pour le coup, vous n'avez pas les clés.
Ah ben non, je sais pas. Moi, j'ai 18 ans. C'est ce que j'écris. Et j'ai l'impression de devoir apprendre à marcher à 18 ans. Qu'est-ce que je veux choisir pour ma vie ? En quoi je crois ? Enfin, j'ai plus à me battre contre un père. Il est à des milliers de kilomètres. Ok, enfin, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me fait pleurer, quelle valeur fondamentale je choisis pour ma vie, enfin, c'est waouh. Mais en même temps, c'est une première renaissance à ce moment-là.
Et à quel moment il y a une vraie renaissance de ce grand cauchemar, qui n'est pas un cauchemar parce que c'est une vie réelle et c'est une histoire réelle ?
Bah moi, je dirais que la renaissance, elle est tous les jours depuis ce jour-là. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis pas encore arrivée.
Est-ce que cette histoire, ce cauchemar, l'histoire de votre papa, votre histoire de famille aujourd'hui, la femme que vous êtes devenue, de 37 ans, mariée à Mathieu, et on le salue à Mathieu, on salue vos enfants, vos parents, vos beaux-parents, vous représentez au fond un vrai miracle ?
Si vous le dites. Oui, non, mais c'est vrai, je suis un peu intimidée quand on me dit ça, mais il faut aussi savoir regarder la réalité en face. Et effectivement, aujourd'hui, je me suis mariée, j'ai réussi à construire ma vie.
Ça, c'est un miracle quand on regarde, dirais quand on lit l'histoire de votre vie.
Ouais. Oui, non, mais c'est sûr que voilà, après, voilà, je guérirai toute ma vie.
Votre époux, avec un époux à côté ?
Ouais. Ouais, non mais c'est sûr, il m'aide, on s'aide et je guérirai toute ma vie. Mais c'est vrai que, le repos, je l'ai pas beaucoup connu avant de me marier, avant cette histoire avant de poser ce pardon, ce jour où j'ai choisi de me rendre ma liberté et de lui rendre sa liberté aussi. Et depuis, c'est une forme de repos et en même temps de me dire, le pardon a ouvert plein de portes et je suis appelée à être tout le temps en mouvement pour aimer mieux mes enfants parce que voilà, c'est pas toujours le quotidien d'une mère de famille. Enfin, je suis pas parfaite.
Ah bon ?
mais il y a d'autres challenges. Mais en tout cas, c'est vrai que je pense que j'ai été sauvée. Était sauvée parce que j'ai voulu être sauvée aussi. C'est ce que j'explique beaucoup dans mon livre, c'est que Dieu, c'est pas une baguette magique. Il fera pas le boulot si moi, je veux pas qu'il le fasse. Si moi, je suis pas debout à prendre des décisions à un moment donné pour vivre et pour m'en sortir et pour être libre, Dieu le fera pas sans moi.
Vous rappelez cet épisode et vous relatez l'épisode d'un film. Ce film, c'est La Passion,
ouais.
Avec l'acteur Mel Gibson. Vous restez pas... indifférente à ce film, il vient vous bouleverser profondément.
Pour moi, c'est ma conversion. C'est ma conversion. C'est le jour où je me rends compte, justement ce que je disais avant, que en fait, je suis unique sous le regard de Jésus, que j'ai un frère, parce qu'en fait, j'ai que des sœurs. Donc là, dans son regard, je comprends que j'ai un frère qu'il aurait fait le même sacrifice pour moi, toute seule. Si j'avais été seule sur Terre, il aurait donné sa vie de la même manière. Et je me rends compte aussi que j'ai jamais été seule parce que là, ce qu'il est en train de vivre, c'est la souffrance que j'ai traversée et que je traverse. Et qu'en fait, il l'a portée en premier. Donc, en fait, on est ensemble, quoi. Enfin, voilà, il a pleuré quand j'ai pleuré.
Il s'est chargé de votre croix.
Ouais, de mes souffrances.
Et de vos souffrances.
Ouais.
À la fin de la semaine, on célèbre ce moment aussi, ouais, de ce frère, ouais, et de la naissance. Comment viviez-vous chaque Noël depuis le début aussi de libération avec l'acte du pardon? Est-ce que chaque Noël a une couleur, une empreinte, ouais, différente pour vous? Ce Noël, par exemple.
Oui, ce Noël, pour des tas de raisons, ce serait peut-être un peu long à expliquer.
En une minute et on se retrouve demain.
En une minute déjà, Noël a toujours été ma fête préférée. Donc de toute façon, Noël, c'est toujours merveilleux pour moi.
La mienne aussi.
Après, je vis des réconciliations encore maintenant. Alors, mon père n'est plus en vie, mais en fait, il m'accompagne. Enfin, j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps, qui est le même jour que sa fête. Et pendant très longtemps, j'ai eu honte que la fête de mon père soit le même jour que mon anniversaire. Et là, je suis en train de guérir par rapport à ça. Et en fait, de me dire, mais c'est waouh, on a encore ce lien qui nous unit ensemble, qui fait qu'on est encore en. Enfin voilà, que finalement, c'est beau en fait ce que Dieu a fait dans notre relation. Et puis, en fait, là, je suis à Lourdes à quelques jours de Noël, mais il y a eu des choses difficiles à Lourdes avec mon papa, notamment une fois où j'ai eu très peur de mourir. Et là, je suis à Lourdes et je suis en train de témoigner à quelques jours de Noël. Enfin, voilà. Alors que Noël, j'ai vécu des Noëls aussi très compliqués, où il était en coma éthylique à l'hôpital, pompier, tout ça. Donc, en fait, il y a plein de petites choses où je me laisse guider par Dieu et où je me dis, ben, en fait, voilà, je suis à Lourdes. Le jour de mon anniversaire avec sa fête, bah, on était ce jour-là, j'étais à 1h30 de chez moi, juste à côté de là où il était enterré. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça où petit à petit, il y a encore des bribes de guérison et de réconciliation qui se passent. Et parfois, c'est facile à voir, parfois je ne le vois pas du tout. Mais là, c'est dans ces temps-ci, je vois qu'il prend soin de moi et que Dieu est encore en train de guérir des choses.
Donc là, vous nous témoignez que des miracles.
Ouais, en tout cas, des très belles choses.
Très belles choses.
Enfin, en tout cas, moi, je les trouve très belles.
On attend toujours des miracles. Et ça, c'est le miracle aussi de la vie. Priscille Roquepaire, on se retrouve demain. On sera tout proche de ce temps, hein, de Noël pour clôturer cette série des clés pour vivre. À demain.
À demain.